Aujourd'hui, à Rencontre, Ambroise-Marie Carré. En juin 75, Ambroise-Marie Carré était élu membre de l'Académie française. Contrairement à la coutume, le père Carré n'avait pas sollicité cet honneur. Au contraire, ce sont les académiciens eux-mêmes qui ont invité le père Carré à se joindre à eux pour succéder au cardinal Danielou. Les membres de l'Académie française confirmaient ainsi la réputation de prédicateur du père Carré. Mais le père Carré est aussi connu pour ses activités pastorales qui lui ont valu l'amitié de personnalités aussi diverses que Maurice Chevalier, Madeleine Renaud et Henri de Monterland. Marcel Brisebois s'entretient avec le père Carré.
Père Carré, depuis un an, vous avez été élu à l'Académie française, vous avez prononcé un discours de réception. Vous êtes donc académicien maintenant de plein droit. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à l'Académie française?
N'est-ce pas, il y a toujours eu des prêtres à l'Académie française, même, on peut dire, un peu trop avant la Révolution. D'ailleurs, un peu trop, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'Académie a été fondée pour la sauvegarde de la langue française, c'était ça à ce moment-là qui primait, et les gens cultivés étaient souvent les clercs, qui connaissaient bien le latin, le grec, etc. Bon. Elle a été supprimée, bon, rétablie ensuite par Bonaparte, mais enfin, n'arrêtons pas les questions historiques. Et il n'y a eu ensuite que, depuis, si vous voulez, 150 ans, il n'y a guère eu qu'un seul prêtre, à tour de rôle à l'Académie. Mais jamais de religieux, sauf le père Lacordaire, et celui qui répond à votre question. Pourquoi ? Parce que, et c'était la raison pour laquelle j'avais toujours refusé de me présenter. J'ai un certain nombre d'amis à l'Académie française, surtout depuis le temps où j'étais aumônier des artistes, théâtre, musique et danse. J'estimais que me présenter à l'Académie, c'était briguer des honneurs humains. Oui, enfin, c'est tenté que ce sont de tels honneurs humains. Bon, enfin, admettons. Et qu'un religieux n'avait pas à le faire. Le père Lacordaire, c'était très différent. Il s'est présenté parce que, restaurant l'ordre des prêcheurs comme une liberté, il estimait qu'il devait montrer sa robe blanche partout. Et il a été élu député, et c'était pour lui un signe. Ensuite, il y a eu des évêques, cardinaux. Et puis, il est arrivé qu'après une élection blanche, pour donner une succession au cardinal Danielou, c'est-à-dire une élection d'où aucun élu n'est sorti, on m'a proposé d'être le successeur du cardinal Danielou. Et comme on savait quelle serait ma réponse, qu'elle serait négative, on a fait jouer un article 15 qui peut paraître être interprété dans ce sens, à savoir qu'on me demande simplement si j'accepterais une élection. C'est une procédure exceptionnelle. Et alors dans ce cas-là, comment voulez-vous que l'on refuse ? Étant donné qu'il est normal, à mon avis, qu'il y ait un prêtre partout. Quelques jours après mon élection, je lisais avec beaucoup de joie la réflexion de l'évêque auxiliaire de la mission de France, qui était prêtre ouvrier pendant 25 ans, et qui disait « il y a d'autres prêtres dans d'autres milieux, et nous sommes non seulement solidaires, mais indispensables les uns aux autres ». Et lorsque, ce qui est le cas pour cette élection, il y a même toutes les familles d'esprit qui sont représentées à l'Académie française. Et il n'y a pas tellement de catholiques militants. Et que le choix de ces académiciens se porte sur un prêtre, comment voulez-vous que ce prêtre ne leur dise pas oui, pour être une présence au milieu d'eux, non pas pour leur faire des sermons tout le temps, même jamais, sauf lorsque l'occasion peut se présenter. Et il y a bien des occasions où alors dans le dialogue personnel, il y a toutes sortes de possibilités qui sont offertes. Moi, j'ai envisagé cette élection, une fois que mes supérieurs m'aient dit « mais bien entendu, vous ne pouvez pas refuser ». Je l'ai envisagé à la fois comme une présence d'Église, dans la mesure où, hélas, je ne serais que cette présence d'Église que je suis, et il aurait mieux valu que ça fût une plus capable de recevoir le Seigneur et de rayonner le Seigneur. Enfin, je suis ce que je suis. Et puis également, la possibilité au fond, avec un titre qui peut être plaisanté, mais qui a tout de même, encore dans beaucoup de milieux, de l'importance, spécialement dans les moyens de communication sociale, la possibilité d'annoncer Jésus-Christ d'une autre manière. Et je vois bien, par les interviews que l'on me demande à droite ou à gauche, l'intérêt qu'il y a à appartenir à cette assemblée.
Père Carré, quand vous avez été élu, vous avez dû prononcer précisément l'éloge de votre prédécesseur à ce fauteuil, le cardinal Daniel. Ou est-ce que ça ne vous a pas, je dirais, gêné
bien, de devoir faire cet éloge? Oui, en effet, beaucoup de gens m'ont dit, mais comment allez-vous vous en tirer? Ce sera très délicat. Mais non. D'abord, je ne connaissais le cardinal Danielou, il était 3 ans avant moi, dans le même collège. C'était un grand, n'est-ce pas, pour moi, et ça m'impressionnait fort. Nous n'avions pas le même tempérament du tout. Et je dois dire que nous nous sommes souvent rencontrés, amicalement, mais sans intimité véritable. Seulement, je savais ce qu'était le sérieux et le sens apostolique de cet homme. Je ne pensais pas seulement à son œuvre. Cette œuvre que j'ai suivie, c'est même un de ceux qui ont, comment dire, ouvert l'esprit de quantité de gens à la doctrine des pères de l'Église, qui a joué un rôle considérable à ce point de vue-là. Et même pour la morale chrétienne, cette influence des pères de l'Église était considérable. C'était un des protagonistes de gens de toute formation. Et par conséquent, il y avait beaucoup à dire sur le cardinal Danielou. La gêne à laquelle vous faites allusion, ce serait celle des conditions, n'est-ce pas, dans lesquelles il est mort.
Il est mort, oui.
N'est-ce pas, pour bien comprendre cela, il faut d'abord ne pas s'imaginer que le cardinal Danielou était l'aumônier attitré des publicains et des prostituées, si vous voulez, comme on est l'aumônier d'une corporation. Mais le père Danielou était un homme qui répondait toujours à tout appel. Et parfois, avec imprudence, mais en estimant que l'imprudence ne comptait pas à ses yeux, qu'il avait une mission à remplir, qu'il était comptable devant Dieu de ce qu'il faisait, et tant pis pour ce que les autres pouvaient penser. C'était un homme très spontané, et qui souvent s'est mis dans des conditions qui pouvaient être, en effet, susceptibles d'interprétations défavorables. Mais c'était pour lui simplement être apôtre de Jésus-Christ. Et je préciserai 2 choses. D'abord, qu'il a été profondément marqué par la spiritualité de saint Ignace. Or, saint Ignace invite ses disciples à suivre Jésus-Christ jusque dans ses abaissements, ses humiliations. Et Jean Danielou, enfin je l'appelle, comme je l'appelais Danielou, comme les camarades de collège, avant qu'il ne fût cardinal, Danielou était très très impressionné, sensible à cela. Lui qui avait eu un départ dans la vie très chaleureux, très brillant, qui avait rêvé de politique, il était poussé par son père qui était un des ministres de la Troisième République, qui était agrégé de grammaire, enfin, qui était en contact avec les hommes de lettres, qui avait devant lui un avenir magnifique, a creusé d'année en année le sens de cette imitation de Jésus-Christ. Et on m'a communiqué des carnets dont certains éléments paraissent actuellement dans les cahiers cardinal Jean Danielou, et qui sont des notes de retraite. Et l'on voit d'année en année s'approfondir ce souci de l'imitation de Jésus-Christ. Et il y a 20 ans, il est même écrit au terme d'une de ses retraites, qu'il fallait accepter par amour du Seigneur, si le Seigneur le voulait, ou le permettait, d'être humilié au point d'être rejeté par les autres et calomnié. Et cela ouvre, à mon avis, un grand horizon là-dessus. Danielou savait tout ce qui risquait, il l'a accepté. Alors voyez-vous, cette mort, certains ont dit que c'était une mort scandaleuse, parce qu'un cardinal de l'Église romaine n'a pas à s'occuper de cette catégorie de personnes. Je réponds à cela, depuis quand un chrétien fut-il élevé en dignité? Dans l'Église ou dans la société, est-il dispensé de se faire le serviteur des autres? D'autres ont dit que c'était une mort humiliée, et je veux dire une mort, une mort, mais qui pouvait représenter quelque chose, enfin comme celle du curé de campagne. Oui, il y a cela. Pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Et je l'ai dit dans mon discours de réception à l'Académie, c'était une mort provocante. Voilà un cardinal qui nous a rappelé que, fût-on chargé d'honneur, on ne devait jamais oublier que dans l'Évangile, il y a une certaine hiérarchie et que le Seigneur s'est occupé des pauvres. Et lorsque je dis pauvres, n'est-ce pas, on s'imagine toujours qu'il s'agit des gens démunis d'argent, dont le lendemain n'est pas assuré. Il y en a beaucoup, il faut s'occuper de cela, en justice d'abord, et en charité. Mais le mot pauvre, c'est une espèce de vaste accolade que je vois dans l'Évangile, et dans lequel vous pouvez mettre les pauvres de santé, les malades, les pauvres de vérité, les pauvres de bonheur, enfin tous ceux qui ont besoin d'être soutenus, aidés, éclairés. Et cette mort nous a provoqués parce qu'à l'heure actuelle, on dit que l'Église est invitée au courage, mais il y a un courage de la miséricorde. Et Jean Danielou nous donne, à mon avis, cette grande leçon. S'il était mort la veille c'était le pardon de Saint-Yves, vous savez, cette grande cérémonie en Bretagne, pendant laquelle il a eu un malaise. Un médecin l'a remarqué, il a vu qu'il se ressaisissait, et il n'est pas intervenu immédiatement. Le matin même de sa mort, il a prolongé le temps de préparation de sa messe, ce qui était inattendu. Il n'était pas, donc, en très bon état. S'il était mort intrigué, on aurait dit, c'est mort de prédestinée. Mort merveilleuse. Bon, je dis, mais c'est une mort aussi bien provocante et bien évangélique que celle de celui qui répond à un appel, quitte même à y rester, à y laisser une part de sa réputation. Est-ce que c'est pas évangélique, ça?
Et vous-même, Père Carré, vous avez dit que vous aviez toujours eu la hantise de ceux qui sont loin.
Oui.
Et vous avez même ajouté que, je pense à plusieurs reprises, que vous croyez que l'Église gagnerait à recueillir, à accueillir les exclus.
Oui. Voyez, n'est-ce pas, puisque vous me parlez de moi, puisque vous m'interrogez sur moi, je vais bien vous répondre. N'est-ce pas, enfin, tout enfant, je rêvais des missions. Je suis né avec, si je puis dire, une vocation missionnaire. Et puis, elle a bifurqué simplement parce que le supérieur de mon collège, qui est un homme admirable, qui a formé de générations de chrétiens forts dans la foi, a estimé que ce n'était pas dans ma ligne ou dans mon tempérament, et s'est réjoui que, ayant entendu un jour une prédication, celle du Père Samson à Notre-Dame, j'avais été bouleversé, j'avais eu le sentiment qu'il y avait une mission aussi par la parole. Et c'est donc comme missionnaire que j'ai toujours envisagé mon rôle de dominicain. Les exclus. Le pape Paul VI en parle souvent. Jean 23, par qui j'ai été reçu à plusieurs reprises pendant le bref temps de son pontificat, me parlait chaque fois des péchés du monde et qu'il ne fallait pas brouiller les cartes. C'est-à-dire appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, mais qu'il fallait songer à sauver les brebis perdues, ne pas confondre le péché et les pécheurs, être, si je puis dire, très, très exigeant et en même temps infiniment compatissant. Et lorsque vous me dites que nous y gagnerions, si vous voulez, je pense à... Enfin, j'ai un peu plus de 40 ans de vie sacerdotale. J'ai vu pas mal de gens entrer dans l'Église, venant d'autres religions ou venant d'autres croyances, enfin de croyances qui portaient sur ceci ou sur cela, indépendamment d'un aspect confessionnel. Et ce qui m'a toujours impressionné, c'est que on leur a porté la vérité catholique, mais qu'en même temps, ils nous apportaient une certaine expérience, et puis que la manière dont ils allaient vivre certains éléments de cette vérité catholique allait être une richesse pour nous. C'est pourquoi je dis que, si je suis très optimiste en ce qui concerne l'avenir de l'Église, malgré les tempêtes, les ouragans, je pourrais vous donner 10 raisons d'être optimiste. Pour moi, c'est la véritable raison qui me fait attendre un printemps pour l'Église. C'est que justement, sans rien perdre, il ne le faut pas, de son attachement à la vérité, et au plan de la morale, de sa rectitude, l'Église comprennent de plus en plus la situation dans laquelle les êtres se trouvent. Et ceux-là, alors, accueillis par nous, non pas avec paternalisme, mais en pleine fraternité, pourraient nous apporter immensément. J'ai personnellement, voyez-vous, beaucoup reçu de gens qui étaient apparemment les plus éloignés de moi, les plus éloignés de ceux qui normalement auraient dû me donner. J'ai reçu beaucoup de l'ordre de Saint-Dominique, pour ne parler que de lui. J'ai reçu beaucoup de gens qui n'avaient rien à voir avec l'ordre de Saint-Dominique, qui étaient des gens très éloignés, mais qui avaient une expérience humaine, qui avaient souffert. Ayant été moi-même très ébranlé dans ma santé lorsque j'étais jeune novice, j'ai beaucoup vu les malades au long de mon existence, ils m'ont beaucoup appris. Peut-être pas ce qu'il faut dire à un malade, en tout cas ce qu'il ne faut pas lui dire, c'est déjà quelque chose.
Qu'est-ce que vous avez appris de ces artistes dont vous avez été pendant longtemps l'aumônier ?
Les artistes, n'est-ce pas, ont joué un grand rôle dans ma vie. Parce que, voyez-vous, ils m'ont appris, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, la rigueur, l'exigence. On me disait quelquefois, vous parlez le dimanche, tous les dimanches aux artistes, quel merveilleux auditoire, sensible, vibrant. Et je répondais, il vaut mieux quelqu'un qui leur parle en faisant des fautes de français, enfin, on n'est pas obligé de nécessairement l'en faire, quelqu'un qui cherche ses mots, quelqu'un qui n'a aucun don oratoire, mais qui soit investi par le Christ, envahi par le Christ. Parce que ces gens-là, ils attendent uniquement des témoins. Vous comprenez le trop beau langage, ou j'allais dire l'émotion factice. Mais enfin, ils connaissent ça, vous connaissez par cœur, c'est leur métier, toutes les ficelles, n'est-ce pas ? Ils les ont apprises, ils savent comment on peut pleurer, même si on n'en a aucune envie. Mais la sincérité, qui sent quelqu'un qui est capable de les comprendre sans néanmoins être complice de leur faiblesse, parce qu'il n'aurait pas confiance en lui, et qui est passionnément épris de Jésus-Christ. Alors, c'est peut-être, voyez-vous, l'auditoire ou le groupement humain le plus exigeant et que j'ai rencontré tout au long de ma vie. Et c'est pourquoi ils m'ont tellement aidé à être leur prêtre, et donc à être prêtre tout court. En même temps que se sont noués avec les artistes les plus différents, des amitiés extrêmement profondes et solides, des dialogues, n'est-ce pas, qui ont duré des années.
Parlant de vos dons oratoires, que tout le monde se plaît à reconnaître, est-ce qu'on ne pourrait pas dire de vous, justement, ce que vous dites ce que Rilke dit et que vous citez, savoir que prêcher, c'est savoir parler avec son cœur, c'est savoir penser avec son cœur. Est-ce que donc c'est ça le fond de votre don à vous ?
Oui. C'est très difficile de savoir quels sont ces dons, quel est le fond qu'il peut y avoir dans ce que le Seigneur a donné gratuitement, n'est-ce pas ? Et qu'il a fallu d'ailleurs beaucoup travailler. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, dans une sacristie d'une église, un jeune prêtre me voyait me promenant le long en large avec deux feuillets noircis, et il m'a dit « Mais vous écrivez encore ?» Après 40 et quelques années de prédication, et je dis « Oui, je n'écris pas tout, parce que j'aime bien improviser sur le moment, mais je fais des plans très détaillés, je recommence indéfiniment, j'ai besoin d'avoir des choses très, très nettes dans la tête. Il faut travailler énormément. Les artistes m'ont appris aussi cela. Ils m'ont appris à être très exigeant avec la parole, à ne pas faire confiance à un don qu'on a reçu du Seigneur, mais le Seigneur veut aussi votre collaboration, n'est-ce pas ? C'est ce que je dis dans le livre auquel vous faites allusion. Et que soulignait le pape Jean XXIII, il faut faire ce que l'on peut faire de son mieux, et puis le reste appartient au Seigneur. Mais le Seigneur veut qu'on commence d'abord par bien travailler.
Qu'est-ce que ça exige de vous prêcher ? Vous avez prêché d'abord à Notre-Dame, évidemment, tout ça est bien connu, vous prêchez dans les paroisses. Qu'est-ce que ça vous demande ?
Ben, j'ai, J'ai prêché aussi beaucoup dans des casinos, des salles de théâtre. Vous voyez, grâce au fait que j'étais aumônier, je crois avoir été un des premiers, il y a déjà bien longtemps, à parler dans des salles profanes. Et je pourrais même dire qu'au total, au long de certaines années de ma vie, j'ai peut-être plus prêché, si on faisait le total d'une année, dans des salles profanes que dans des églises. Ce qui est très exigeant, vous savez, ce qui est dur, parce que dans une église, après tout, je ne parle pas de conférences, n'est-ce pas, de Notre-Dame, je parle des homélies qu'on fait à une messe, eh bien, les gens sont venus tout de même pour participer au Saint-Sacrifice, n'est-ce pas, à l'Eucharistie. Et puis, bon, ils ont le sermon. Si j'étais malicieux, je dirais qu'ils sont tellement habitués à ce qu'on les ennuie, qu'ils sont à peu près à tout, n'est-ce pas. Mais lorsque vous faites une conférence dans une salle neutre, les gens ont payé, et c'est un auditoire difficile. C'est un auditoire aussi très mélangé, dans la proportion duquel les non-croyants se trouvaient souvent beaucoup plus importantes que celles des croyants. Eh bien, si vous voulez, ce contact avec l'auditoire, et spécialement en dehors des églises, est un contact qui nécessite une très longue préparation, une espèce de dialogue. Mais voyez, sans jamais se laisser impressionner par une masse ou une foule de gens. N'est-ce pas ? Vous parlez à la radio, vous avez des centaines de milliers d'auditeurs. Il ne faut surtout pas penser à cela. Quelqu'un que j'aime beaucoup, qui était un de mes parrains à l'Académie, Julien Green, dit « J'écris pour celui qui est seul ». Il faut aussi que le prédicateur pense « Je parle pour celui qui est seul ». Et qui a besoin, au fond, qu'on lui apporte une réponse. On n'apporte pas une réponse à des centaines de milliers de gens ou à des millions de gens si on n'a pas la préoccupation du frère avec qui on parle comme s'il était seul. Et le frère qui, au fond, a les mêmes problèmes que vous, qui a quelque chose à vous donner, je l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas ? On reçoit beaucoup. Il faut peut-être être en état de réception pour être capable de bien donner ensuite. Et puis donner, mais toujours dans le sens d'un dialogue avec les autres, et que l'autre sente qu'on est... Je vais employer un mot, n'est-ce pas, que peut-être on ne comprendra pas, mais qui est un de mes mots familiers, qu'on est émerveillé, vous voyez. On est émerveillé par l'amour de Jésus-Christ. J'ai vu beaucoup d'êtres souffrir dans ma vie. J'ai moi-même eu une vie qui n'a pas toujours été simple. Je reste émerveillé par l'amour du Seigneur, même si le chemin est rude. Et si mon dialogue avec les non-croyants ou les incroyants était facilité par le fait que je me suis toujours posé les problèmes de la foi, mais que Dieu nous aime, vous voyez, je n'ai pas eu d'autre chose, au fond, à dire.
Est-ce que vous avez prêché pour convertir ?
N'est-ce pas? Je souris. Bien sûr, je n'ai pas prêché pour que les gens perdent la foi. Enfin, j'espère du moins que je n'ai pas été assez maladroit pour avoir ce résultat qui n'était pas dans mon intention. Je souris parce que un de mes confrères m'avait dit, en effet, au début de mon ministère, on dirait que vous voulez convertir tout le monde et à tout prix. Il y avait là un certain emballement de jeunesse, il y avait là le besoin passionné, n'est-ce pas, de prêcher Jésus-Christ, qui est la seule explication de ma vie. Mais au long des années, je ne dis pas, je l'espère du moins, que c'est cette passion apostolique qui a diminué, mais ce sont les conditions psychologiques que j'ai essayé de mieux comprendre. Et de savoir que ce n'est pas toujours en criant qu'on est le mieux entendu, et ça n'est pas non plus en donnant des coups de poing dans les yeux des gens qui voient plus clair.
Et pourtant, mon père, vous me permettez de vous dire ceci, j'ai l'impression, en vous lisant, que vous ne faites jamais de psychologie religieuse. On sent que vous comprenez le cœur de l'homme, mais vous ne faites pas de psychologie religieuse.
Et quelle distinction mettriez-vous là?
Eh bien, je pense que le psychologue est celui qui, au fond, n'est-ce pas, bon, a une certaine connaissance presque scientifique, n'est-ce pas, et qui cherche peut-être à amener des gens vers l'équilibre, d'une certaine façon, pas vers un équilibre humain, naturel. Pour vous, il me semble qu'il y a un autre sens à votre parole.
Oui.
Qui est une adhésion, qui est le sens de l'adhésion, au fond.
Oui, d'ailleurs, moi, j'ai quelle mission? La mission de mettre quelqu'un, Dieu aidant, au contact de Dieu. Et c'est tout autre chose que le travail d'un psychologue. Mon rôle, c'est celui de Jean-Baptiste. J'annonce simplement quelqu'un. Et si j'arrive simplement à ce que celui ou celle avec qui je parle veuille bien regarder celui qui vient derrière moi, et qui d'ailleurs m'a toujours précédé, eh bien j'estime que c'est ça, c'est cela que pourquoi je vis. C'est bien pourquoi je vis.
Vous vous êtes défini vous-même, mon père, comme un itinérant, comme un voyageur.
Oui.
Quel sens a votre voyage aujourd'hui?
Je le dis parce que je suis dominicain. Et que nous ne sommes pas comme, enfin, stables, si vous voulez, comme les moines, comme des bénédictins ou des trappistes, encore moins, ou des chartreux. Nous sommes des frères prêcheurs, dont les frères itinérants. Et même lorsque j'étais au milieu des artistes, j'ai continué à prêcher, à donner des conférences, quelquefois même avec la collaboration d'artistes qui venaient lire des textes dans ces salles de théâtre ou de cinéma.
Comme Barrault et Renaud, par exemple.
C'est ça. J'ai aussi Pierre Freinet, des gens merveilleux. Merveilleux, parce que, je détourne un peu la note conversation, mais on va apprendre, extraordinairement humble. C'est vrai aussi ce que j'ai appris des très grands. L'humilité des très grands artistes. C'est une chose impressionnante, n'est-ce pas? Me demandant des conseils qui me montraient que, comme certains me disaient, jusqu'au bout, il faut retourner à la classe maternelle. C'est un mot aussi que m'a dit Gérard Philippe, n'est-ce pas? Et je crois que c'est un mot qui est très beau. Itinérant, oui, pour aller là où l'on est appelé. Mais vous savez, on est appelé aussi à côté de soi.
Il y a aussi un homme qui ne regarde pas le passé.
Non, je suis comme happé par l'avenir. Parce que l'avenir, pour moi, c'est la rencontre de celui que, mal, j'ai essayé de servir, vous voyez, et que j'aime.
Père Carré, je vous remercie.